Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabine Bleue. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 8 dans lequel on abordera le 8e épisode de la première saison du retour de Doctor Who. L'épisode s'appelle Father's Day. Alors aujourd'hui je suis accompagné, comme d'habitude, de Tonton Sonde.
Bonjour, bonjour.
Et de Hal. Salut Hal.
Coucou.
Alors aujourd'hui il n'y a pas de JT.
Oh la tristesse.
Oui, alors que je sais bien que dans l'épisode hors série dernièrement, donc l'épisode 7 qui est un épisode hors série, on avait dit qu'on reportait la critique de cet épisode pour être un maximum ensemble, mais comme vous le voyez on a beaucoup de retard puisque depuis décembre on n'a rien enregistré et on n'a pas réussi en fait à se rassembler.
C'est donc après une traversée du désert, une sécheresse incroyable en matière de critique de Doctor Who, mais donc on revient vers vous.
Oui, donc on va parler aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, de l'épisode Father's Day, huitième épisode de la première saison. Je vais éviter de bafouiller.
Petit à petit, on en arrive à la fin. Hein.
Oui, et je suis en train de vous préparer, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en émission, mais je suis en train de vous préparer une émission de fin de saison.
Oh, ça promet.
Donc on aura, nous aussi, notre épisode spécial comme Doctor Who le fait.
Merveilleux.
Nous serons tous des docteurs.
Oui, alors comme petite première partie d'émission, je vais vous faire le conducteur de l'émission. Donc, on s'est dit bonjour, on s'est congratulé, c'est génial.
Merveilleux.
On va avoir un petit débat comme d'habitude. Cette fois-ci, ça va être un débat un petit peu particulier, vous verrez quand on l'abordera. Ensuite, on aura nos recommandations, puis on partira en critique d'épisode, puis on finira l'épisode calmement. Tout simplement, la première partie de notre émission, ça va être de classer tous les épisodes dont on a parlé en émission, voir un petit peu pour nous quels sont les meilleurs, quels sont les pires. Alors, je sais pas si vous déjà vous avez un épisode que vous voulez mettre déjà dans le haut du panier. On va les voir un par un, mais déjà un épisode qui pour vous semble plus important que les autres.
De prime abord, pas tellement pour ma personne en tout cas.
Il n'y en a pas un qui se démarque, selon toi, dans ceux qu'on a déjà vus ?
Non. Je les ai appréciés. D'une manière générale, hein. Après, évidemment, quand on les verra cas par cas, il y en aura qui se démarqueront, mais de prime abord, non.
Et toi, Al ?
Eh bien, le premier me semble quand même le plus important.
Ah,
ça
okay.
dépend.
Écoute, on va voir ça ensemble. Je propose de les voir. De les voir un par un pour voir un petit peu comment ils se situent les uns par rapport aux autres. Donc le premier dont on a parlé d'ailleurs, c'était l'épisode Rose.
Ça fait.
Oui.
Là forcément il n'y a pas de comparatif, c'est le premier. Donc forcément il est à la fois premier et dernier.
Ça fait. Oui.
Le second c'est The End of the World. J'espère que vous en avez un petit peu
oui,
souvenir.
Oui, oui ça fait, oui. Avec les bonhommes bleus.
Oui.
Blue.
Avec les femmes arbres. Oui,
alors que, est-ce que vous le trouvez meilleur que le premier, moins bon?
C'est-à-dire que c'est assez compliqué parce que j'ai trouvé plus enjoyable. Du fait que
c'est là que l'aventure démarre vraiment,
c'est ça,
pour moi.
C'est là que Doctor Who est là, mais d'un autre côté le premier est, déjà c'est le premier que j'ai vraiment regardé d'épisode de Doctor Who quand j'étais jeune enfant.
Ouais.
et ainsi donc y a aussi un petit côté nostalgia.
Ouais. Toi tu le situerais où, lequel pour toi est le meilleur?
Le premier, Rose.
Ouais.
Et celui-là arrive à beaucoup plus loin quand même.
Beaucoup plus loin.
Ouais. Pour moi, oui.
Moi, j'hésite parce que pour moi, j'en ai déjà parlé dans notre premier épisode, c'est que Rose, j'ai vraiment eu beaucoup de mal au début. Je parle de l'épisode, hein, pas du personnage. Pour moi, ça a vraiment démarré à The End of the World, où là, vraiment, je me dis, ah, ok, là, j'embarque,
c'est l'aventure.
C'est un petit peu foufou. Donc pour moi, ils sont plus ou moins au même niveau. Donc je vous laisse le choix à tous les deux de savoir qui est premier. Apparemment ça partait plus vers Rose.
Oui, oui. Mettons-le au niveau d'ordre d'importance aussi dans la série. C'est vrai que c'est un épisode terriblement important. En plus c'est la reprise de Doctor Who, la rentrée, donc voilà.
Très bien, donc pour le moment donc, en première position Rose, en second The End of the World, troisième épisode il y a The Unquiet Dead.
Ça moi je le mettrais en dernier dans ces trois là.
Pourriez-vous juste me rappeler, ça parle de quoi cet épisode-là ?
Alors, c'est plaît, avec les Gelts, donc ils vont à Cardiff en 1800, je ne sais plus combien.
Ouais.
Et il y a des âmes qui prennent possession des...
du gaz dans les maisons et des cadavres qui prennent possession des cadavres dans une morgue.
Tu situes un peu mieux maintenant ?
Oui, c'est beaucoup plus clair.
Ouais.
C'est bien plus clair.
Tu as l'air vraiment à fond convaincu.
Je suis plus con que cul, mais bon.
Ça, je dirais pas le contraire.
En tout cas, tu es terrible en vrai.
Merci, monsieur.
Ainsi donc, je le mettrai vraiment pour le moment en dernière position. Sans doute pas le pire de la saison. Mais j'aime beaucoup le cadre. Mais au-delà de ça, c'est pas très.
Ouais, moi, je l'ai trouvé un fort chiant. Quoi. Il y a de bonnes idées, mais.
Ça gagnerait à être plus développé.
Ouais, mais même, je sais pas, il y avait un côté un peu plat dans l'épisode. Même si c'est très chouette parce que t'as Charles Dickens et tout.
Ouais, ah oui, voilà, c'est Charles Dickens. J'ai confondu avec Shakespeare. Donc, mais rien à voir.
On est d'accord que c'est un peu, pour le moment, l'épisode le plus faible.
Ouais, clairement.
Ouais. Bah, pour le moment, donc, c'est simple, pour le moment.
C'est 1, 2, 3.
1, 2, 3. Je note vite fait ça, hop.
Ensuite, c'est le double épisode Alien in the Unknown and World War 3.
Eh ben, alors moi je le dis, pour moi il est meilleur que les trois qu'on vient de passer en revue. Je trouve que le délire avec les aliens qui pètent et tout, c'est assez, assez fou. T'as une sirène, enfin une sirène, homme-cochon. Je trouve ça vraiment. C'était vraiment un peu foufou.
C'est le plus spectaculaire du moment.
Ouais, et c'était plus spectaculaire en effet. Puisque t'as des choses qui explosent, t'as l'intervention de l'État, on entend parler de UNIT et tout.
Ouais.
Donc il y avait vraiment pas mal de choses qui étaient mises en place et qui. Moi, les deux épisodes, franchement, je les ai pas vus passer.
Bah, je trouve que c'est loin d'être l'un des meilleurs épisodes de la série.
Non, d'accord, mais pour le moment,
dans les quatre qu'on propose, là, voilà.
Ouais, t'en penses quoi, Al?
Bien, ceci, je casserai deuxième seulement. Après Rose.
Après Rose?
Oui.
T'en penses quoi?
Parce que les costumes. Juste les costumes en plastique.
Ah, justement.
Quand
ils
courent.
Justement.
Autant. Quand ils courent, c'est de la 3D d'ailleurs. C'est pas des.
Pas un moment.
Oui, il y a certains moments où c'est costume plastique.
Et on voit qu'ils tremblotent un peu de partout.
Mais moi, ça me plaît. Justement, j'aime le côté kitsch de Doctor Who.
Ouais,
donc,
si t'aimes pas le côté cheap des premières saisons de Doctor Who,
je vais me faire taper, c'est ça?
Non,
mais ça fait partie du charme de la série.
Je trouve que c'est.
Ça fait même l'identité de la série.
C'est ça, c'est un peu difficile quand. Comment dire? Quand. Tu veux faire en sorte que quelqu'un rejoigne la grande secte de Doctor Who en lui faisant regarder Doctor Who. S'il n'est pas sensible au côté cheap et un peu cheesy parfois de la première saison, enfin des premières saisons, hein, parce que même avec Tennant, c'est pas toujours le budget, c'est très difficile de le faire entrer dedans. Quoi. Alors là, il va falloir lui dire « Non, mais attends, la saison 5, là, ça devient sérieux !» Et bon.
Non, ça fait partie du charme de la série. Et puis des fois, on n'est pas forcément attiré par le côté kitsch, et finalement, ça a tellement de charme que ça te fait aimer le kitsch. Enfin, pour moi, ça a été le cas. Moi, j'étais pas spécialement fou du côté un peu cheap et tout. Et petit à petit, je suis tombé dedans. Et pour moi, ça fait partie, niveau ambiance, de probablement des meilleurs moments de Doctor Who.
Ouais.
Ouais. Même si j'ai ma petite préférence pour.
Pour Rose ?
Pour Rose, oui.
Alors, toi, tu le mettrais où ?
Non, moi, comme toi.
En premier ?
Ouais.
C'est toujours moi le casse-couille.
Mais c'est deux contre toi, monsieur. Hein. Désolé.
Ben.
Donc, en premier, donc le double épisode avec les Slitines. Donc je marque. Hop, Slitines. Hop. Et je reprends la liste des épisodes. Ensuite, on avait l'épisode d'Alec.
Alors là, je le classe premier.
Ah oui, aussi.
Puisqu'on en a reparlé il n'y a pas longtemps, puisqu'on a fait une émission dessus, il est bon. Vraiment,
ouais.
Mais pour moi, il y a des choses. En le regardant à nouveau, il y a des choses qui fonctionnaient un peu moins bien que dans mes souvenirs.
Comme
je le trouvais plus intense, alors que là, c'était pas fou. Je trouve qu'il y a des personnages très clairement inintéressants.
Ouais.
Du coup, moi, j'ai trouvé vraiment bien l'épisode. Ça, il y a pas de souci. Mm-hmm. Mais je le mettrais pas en premier. Je le mettrais en deuxième. Moi, si tu me demandes maintenant, je préfère regarder l'épisode sur Escitine, enfin le double épisode sur Escitine, plutôt que l'épisode sur Dalek. Je comprends, il est important en plus, parce que c'est le retour des Daleks, et c'est l'épisode sur Dalek le mieux écrit.
Oui, tout à fait.
Donc moi j'accepte de le mettre en première position, il n'y a pas de souci.
Alors mets-le en première position et ne discute pas.
Donc, hop, Dalek en 1, ensuite on a The Long Game, donc l'épisode avec le Jagger à fesses.
Tu as dit fesses ?
J'ai dit Jagra.
Ah ouh. C'est plus intéressant.
Alors là, c'est un épisode pour lequel j'ai énormément d'affection.
Pourquoi ? Parce que Simon Pegg ?
Parce qu'il y a aussi... Oui, oui, entre autres, mais parce que j'agrafesse. Non, parce qu'on a une station spatiale avec des espèces de punks de l'espace dedans et des gens qui servent des nouilles tentacules. et pour moi, là aussi, c'est très 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 fort l'identité Doctor Who.
Il y a un petit côté Total Recall.
Oui, c'est tout à fait, oui. Et voilà, moi, c'est vraiment quelque chose, quand je repense à Doctor Who, c'est ce genre d'épisode que je vois.
Oui, mais par exemple, par rapport à Dalek, je le trouve plus faible.
Ah, mais par contre, oui. Là, par contre, au niveau du contenu de l'épisode, en dehors de la nostalgie et
de l'ambiance générale.
C'est ça. En effet, c'est un épisode vachement moins... qui a des longueurs, d'ailleurs, avant qu'on ne le revoie, dans mon souvenir, c'était un double épisode, tellement il était long.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de rythme dans cet épisode.
Ouais.
Il y a des longueurs qui sont faites avant que le docteur soit amené à rencontrer Jagrafès, il se passe quand même pas mal de temps.
Ouais. Et puis surtout que c'est quand même une station spatiale dans laquelle on va revenir 3 fois au total. Et que donc, du coup, bah, forcément, mes souvenirs ont un peu tendance à se mélanger dans ce cadre-là.
Vous le situeriez où ?
Sur notre petite échelle, là ?
Oui.
Quatrième.
Quatrième, donc tu le mettrais après Rose ?
Oui. Soit au-dessus ou soit en dessous de Rose ?
Ouais. Ouais, moi je le mettrais en dessous de Rose aussi. Ouais.
En dessous de Rose ?
Ouais. Pas de double
sens. Mais
essence,
mieux que The End of the World.
Oui, 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 tout à fait. Oui.
Ah oui, vous le trouvez mieux. Moi je trouvais The End of the World plus réussi. Je trouve que le rythme était beaucoup plus soutenu.
Mais je trouve l'ambiance du truc avec le graphisme plus enjoyable que The End of the World.
Il y a plus de détails.
Oui.
C'est vrai que la station...
Tu vois, c'est ça, j'ai un peu pu me perdre dans l'épisode en regardant les détails.
The End of the World, les pièces sont assez fades.
C'est ça, ouais, ouais.
Donc pour ça, pour la production value, en fait, vous mettrez devant. Pour moi, ouais. Ça ne dérange pas. Hein.
Ouais, je ferai ça.
Mais tout l'épisode, en fait, on dirait une grande scène d'exposition pour le fait qu'on va revenir plus tard
c'est
dans
vrai,
cette station.
Bah, à mon avis, ils ont investi quand même pas mal pour construire tout le truc.
Ouais.
Enfin, tous les différents petits trucs. Donc, forcément, ils les ont probablement réutilisés par la suite. Et ensuite, ben voilà, on aura classé. Là, on va arriver à Father's Day, qu'on va pas classer maintenant. On va plutôt classer en fin de chronique critique qu'on fera tout à l'heure parce que sinon ça va griller les cartouches qu'on se réserve pour la conversation.
Ça.
Je vais vous récapituler un petit peu l'ordre. Donc on a mis en numéro 1 Dalek, en numéro 2 Aliens of London et World War 3, donc le double épisode avec Cassidy.
Tout à fait, oui.
Ensuite on a épisode Rose.
Ouais.
Ensuite on a The Long Game. Après The End of the World.
Ouais.
Et puis The Unquiet Dead.
Qui a sa place.
Qui est le moins bon pour le moment, nous. Le moins bon de la saison. Moi, je suis assez content de ce top. Je suis plutôt d'accord, même s'il y en a certains que je me mettrais un peu différemment. Mais je trouve que c'est plutôt bon. On verra tout à l'heure à quel niveau on met Father's Day.
Oui.
Et on continuera comme ça pour le reste de la
saison.
Pour le reste de la saison et des saisons à venir.
Tout à fait.
Ouh, ça promet.
Ça promet, oui. On va partir en chronique.
Ouais.
Enfin, plutôt en recommandation.
Avant ça, oui.
C'est vrai que j'avais oublié ça. Alors, qui veut commencer avec ses recommandations ?
Laissons Al commencer.
Vas-y, Al, on t'écoute.
Eh bien, première recommandation, moi, toujours. Ah, fantastique. Power Rangers, le film. Il a l'air bien.
J'ai pas vu la bande-annonce.
Oh là là.
Moi non plus. J'ai juste vu les costumes.
Ouais.
Comment vous les trouvez ?
Bah, ils font très grim and gritty, quoi. Le but, c'est de faire du sombre.
Ouais, oui.
Alors, est-ce que ça fonctionne avec Power Rangers ?
Bah, je dirais oui.
Bah,
j'aime beaucoup de choses, mais là, ça me donne envie d'aller le voir.
Faire du grim and gritty quand ils ont voulu le faire avec Man of Steel, finalement, ça fonctionne pas tant que ça. Maintenant,
non,
c'est leur manière
mais
de le faire.
Alors, je pense c'est pas du DC, donc tout va bien.
Merci, tu m'apprends rien.
Man of Steel. Pour aller là-dessus 2 minutes, je pense qu'ils se sont trompés de direction. Je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est un propos plus adulte. Mais là, ils l'ont fait adulte pour enfants, tu vois, en mode regarde, ils se foutent des vrais baffes, ils font mal, oh là là, regarde. Ouais. Alors que je pense qu'une manière bien plus adulte d'approcher Superman, mais après ils auraient pas pu le mettre dans leur univers étendu, mm-hmm. c'est la manière dont il avait été approché dans ce superbe comics que tu m'avais offert.
Ah oui, Secret Identity, donc voilà. Identité secrète.
Qui va raconter en fait l'histoire dans un monde où Superman est un personnage de fiction.
Voilà, est un personnage de comic book. Tel qu'on pourrait dire que ce serait notre monde en fait.
C'est ça. Un garçon dont les parents étaient un peu fans de Superman et dont le père s'appelle Kent,
ouais.
Décide d'appeler leur fils Clark, qui est un fils... avec une petite carrure, des cheveux noirs et...
Physiquement, il lui ressemble.
Ouais, voilà. Et donc, du coup...
Qui est un peu un nerd.
C'est ça. Et toute sa vie, en fait, il se fait comparer à Superman. On lui offre que des trucs Superman.
Alors qu'il n'aime pas les comic books.
Et du coup, il en a marre. Mais un jour, il va découvrir que un petit peu, il y a des pouvoirs de Superman.
Et c'est super bien.
Et alors, c'est une série... Enfin, c'est un one-shot terriblement, terriblement humain. Et je pense que le but, enfin comment dire, faire quelque chose avec un propos adulte, c'est pas le rendre sombre.
Et violent.
Ça avait bien marché avec Batman par Nolan, mais parce que bon, déjà c'est Nolan, et ensuite Batman se prête mieux au sombre et désabusé
de base.
Que Superman.
C'est pour ça que quand t'as eu le Dark Age of Comics dans les années 80, certains disent qu'il a commencé un peu avant, dans les années 70, mais ça avait du sens,
ouais,
parce que le personnage, en tout cas ça avait du sens avec un personnage comme Batman, vouloir faire du sombre absolu avec des personnages très lumineux.
C'est ça.
Voilà.
Et donc voilà, donc Power Rangers, le faire sombre, ça va pas le rendre plus adulte ou plus intéressant. Ce que ça va faire, c'est que ça va peut-être le rendre un peu plus Kiku Dark Sasuke du 48.
Ouais.
Et alors que s'ils avaient décidé de faire une série Power Rangers un peu plus lumineuse, mais avec des problèmes de société, enfin je veux dire, genre un problème d'homosexualité ou de rejet dans le groupe.
Ah non, peut-être qu'il y aura ça dans l'équipe.
Ouais, peut-être, mais j'ai des doutes, hein, j'ai vraiment des doutes. Peut-être du fat shaming, ou vous voyez, traiter de problèmes qui nous sont sociaux. Propres.
Parce qu'il y avait une partie de Power Rangers où c'était ça, c'était leur vie au lycée.
Voilà, parce qu'après tout, c'est des ados. Et, ouais. Et traiter de problèmes de société avec des ados, ça marche très très bien. Donc voilà, moi j'en attends rien.
Il y a Bryan Cranston qui est parti au projet, il fait comment il s'appelle, la tête volante dans la station.
Ah oui, tout à fait.
Il va faire ça. Ben voilà, pourquoi pas. Maintenant, j'avais vu le costume de la méchante là.
Oui, Rita, la sorcière. Rita Mitsuko là.
Rita, je sais plus comment.
La sorcière noire, on va dire.
Qui, pour moi, ne. Voilà, je trouve que faire du son pour faire du son, parce que genre c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, non. Et regarde, DC essaye de faire du sombre avec du sombre. Vous avez vu quand on a eu les premières photos d'Aquaman,
oui,
c'est
oui.
Super sombre et tout. Je sais pas si Aquaman, probablement, tu vois, tu peux faire
il s'est juste fait une colo. Il était blond à la base, il devient noir de
Non, mais son costume, il est super foncé.
Ouais.
Quand tu regardes dans les comic books, bon, il y a plusieurs costumes. Hein. À un moment, il lui manque même un bras, il a de la barre, enfin bon, peu importe. Mais
c'est à cause de la pollution, tout ça.
Généralement, il peut avoir un costume très orange et très vert.
Enfin, c'est dans un univers de poissons et les poissons tropicaux, et voilà, ils ont des jolies couleurs, donc c'est pas vraiment dérangeant. C'est pas vraiment dérangeant, non, tu vois.
La dictature de l'aquarium.
c'est pas dérangeant qu'il soit colorful.
Non, mais justement, mais dans le film, il va pas l'être.
Ouais, c'est ça.
Alors, est-ce que c'est dérangeant qu'il le soit pas? Ça dépend comment traiter le truc. Mais en plus, ils ont pris Khal Drogo pour le faire. Jason Momoa. Le mec, il a tout le temps l'impression de faire une gueule de je suis méchant, je suis sombre. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ils vont vers un truc qui, moi, me plaît pas.
Ouais, et un truc qu'il faut que vous regardiez, ce sera d'ailleurs sans doute dans mes recommandations un jour, c'est Young Justice.
Oui, mais ça t'aime beaucoup, Young Justice. Ouais.
Justement, il y a Aqualad, donc l'acolyte d'Aquaman, dedans. Et donc, on en voit un peu plus sur la vie d'Aquaman. Moi, je n'ai jamais lu d'Aquaman, donc je ne connaissais pas vraiment le personnage.
J'ai lu un peu d'Aquaman de Geoff Johns, avec New 52. Voilà.
Voilà. Et là, donc, Aquaman est représenté comme un monarque. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, il a tout ce qu'on peut attendre d'un bon monarque, et en même temps, c'est un monarque. Donc c'est-à-dire que
très chiant quoi, pas accessible.
Donc ouais donc c'est ça, donc il a une vie de famille assez restreinte, il a beaucoup de dîners officiels et tout ce qui va tomber sur Atlantis, ça va tomber sous sa responsabilité. Donc ouais. Dès lors qu'il va y avoir un attentat, un type qui s'enfuit avec un truc et tout, c'est
et chacune
c'est
de ses actions est limite le symbole de la population et du coup voilà. Il doit bien faire attention à chaque acte qu'il fait. Exactement. À chaque ennemi qu'il prend en tant qu'ennemi.
Après donc voilà, il est Aqualad et son acolyte, mais donc du coup il n'est pas accessible même pour Aqualad, parce qu'il y a des fois il n'est pas là, il est avec la Justice League, il y a des fois il a des événements officiels auxquels il faut. Et donc, c'est pas mal. Il est bien traité et ça en rend un personnage attachant et ça le rend très important dans la Justice League. Que je ne sais pas ici comment il va être traité une fois qu'ils vont faire le film Justice League. Si Monsieur Momoa va être en mode « Moi, je suis là. » Je sais pas pourquoi je prends votre blague. « Moi, je suis là et je suis là pour casser des gueules. » Ou s'il va être la personne posée et intelligente qu'il est censé être.
Il y a Flash aussi, hein, parce qu'on parle pas, mais il y a Flash.
Mais qui a l'air terriblement. On dirait plus qu'il te flash que Flash.
Mais surtout qu'il est à côté d'adultes qui font un peu sérieux. Et j'ai l'impression que c'est un ado, quoi. Et quand je dis ils font sérieux, c'est la direction artistique qui fait ça. Genre, ils sont très serious business. Que lui, il a plus l'air je suis là, quoi.
Bah, c'est Flash.
Ouais.
Après, Flash, il est censé être un peu le rigolo.
Oui, avec Green Lantern. Enfin, c'est bon, quel Green Lantern, tu vois.
Le roux qui est là pour se faire des amis.
Le roux avec une coupe au bol.
Oui, Guy Radner.
Incroyable.
Qui est trop cool. Je vous conseille, c'est pas ma recommandation, mais je vous conseille de lire Justice League.
D'ailleurs,
c'était International.
Et je fais une toute petite aparté personnelle, mais oui. Est-ce qu'il se passe un truc entre Guy Radner et Al Jordan et l'autre
Oui. Oui. Le Black ou John Stewart ou l'autre
Al Jordan et John Stewart.
Je sais plus. En même temps, j'ai pas lu l'entièreté du run de Geoff Johns, donc
parce qu'à un moment, donc toujours dans Young Justice, ils avaient une première Green Lantern et puis ils ont l'autre, et donc du coup, t'as Batman qui propose Guy Radner, et alors t'as les deux autres Green Lanterns qui font non, et ils demandent mais pourquoi ? Parce que non.
Mais parce que c'est un casse-couille en fait.
Ah ok, voilà.
C'est un casse-couille, on voit bien dans Justice League International. C'est le mec qui veut être au patron parce qu'il a décidé que. Il est chiant avec les nouvelles recrues des Green Lantern. C'est un casse-couille, mais il est cool, quoi. Enfin, moi je l'aime bien parce que justement il change un petit peu des autres, quoi.
Ok.
Donc voilà. Et donc toi t'attends beaucoup Power Rangers.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, ça a l'air très joli. Et quand j'étais petit, je regardais ça.
Moi aussi, je regardais Power Rangers, mais j'ai vite compris que c'était de la merde.
Ah bon ?
Ouais.
Mais déjà, il faut savoir d'accord. une chose, il y a plusieurs choses à savoir, mais c'est que les Power Rangers qu'on avait quand on était gamin, les scènes d'action, en fait, c'est tiré des séries japonaises.
Ouais.
Et c'était retourné par la suite pour correspondre à un public américain.
Mais c'était pas retourné, en fait, c'était les scènes sociales où ils sont pas en costume étaient retournées avec des Américains. Mais les scènes d'action, c'était fait par les Japonais. Et en fait, ils remontaient ça de cette manière-là. Donc, déjà, c'est un truc qui moralement est pas.
Un peu étrange.
Un peu, bizarre. Donc voilà, moi pour Ranger, je suis pas spécialement. Je suis pas spécialement fou, quoi. J'en ai pas grand-chose à faire, en fait. Donc en plus, adaptation dans un style grim and gritty, pardon. Qui moi m'emballe pas, mais voilà quoi. Ça m'emballe pas vraiment.
Tout à fait.
L'avenir nous dira.
Ah oui, si c'est un bon film, moi y a pas de souci. Hein.
Ouais, tant mieux.
Je condamne jamais un film avant l'avoir vu.
On n'aime pas quand t'es mauvaise surprise, hein, que du contraire.
Ah non, bah, tout à fait, oui. Je préfère que ce soit dans ce sens-là plutôt que l'autre. Alors, tonton.
Alors,
petite recommandation.
Alors,
moi, c'était tout alors.
Ah oui.
Ok.
Moi je vais vous parler de Kill la Kill.
Ok.
Alors, faut savoir qu'au niveau manga et anime, j'ai un peu laissé tomber l'affaire.
Tu regardes beaucoup d'animation, mais.
Pour le moment, je regarde énormément d'animation.
Occidentale.
Surtout d'occidentale. Vu que j'aimerais hypothétiquement travailler dans l'animation à un moment donné, j'essaye de me faire une base, de regarder comment les choses bougent.
Ouais.
Et voilà, histoire d'avancer.
Tu peux juste vite fait, genre, un truc d'animation du moment. un ou deux trucs que tu conseilles à fond, sans dire pourquoi, ni rien, juste les citer.
Bon, pour je conseille à 1 milliard de pourcents Steven Universe.
Oui.
Oui.
Je conseille à 100% Star versus Forces of Evil.
Ok.
Oui.
Gravity Fall, et je conseille Young Justice, évidemment. Ouais. Gravity Fall, je le conseille à
100%. En animation, je trouve ça moins joli, Young Justice. Animation pure.
Oui, et les scènes de fight sont très très bien.
Oui. Et Over the Garden Wall, tu...
Ah oui, alors
oui, je m'en avais parlé.
Over the Garden Wall aussi, on pourra en parler éventuellement dans l'Antidote à l'ennui.
Oui, donc une autre émission que nous animons.
Voilà, et là c'est l'Antidote à l'ennui, évidemment, sera en fait, c'est cette partie ici sur une heure. Hein. La partie du plaisir.
Enfin, même plus.
Oui, plus c'est l'infinité.
Oh.
Et oui, Over the Garden Wall, je vous le dis, regardez ça, faites ça regarder à vos enfants. À partir du moment où ils ont 8 ans, parce qu'un peu plus petit, ça risque de les emmerder et de les terroriser un petit peu à certains moments. Il faut terroriser les gosses. Hein. Moi, je suis un parti de la peur quand on est gosse. C'est super bon pour l'imagination et pour le développement personnel, mais pas trop quand même. Voilà.
Donc, tu voulais la recommandation Kill la Kill.
Kill la Kill. Donc, j'ai un pote qui est pas mal lui aussi, qui regarde assez bien et qui sera avec nous pour l'Antidote à l'ennui.
Oui.
Qui est pas mal dans le monde des séries, dans le monde de l'animation. Et il me disait, regarde Kill la Kill, viens, j'ai les épisodes, on s'en matin. Et donc, Kill la Kill, c'est quoi? Dans un Japon autre que le nôtre, une invention a été découverte. Ce sont des uniformes avec de la fibre extraterrestre, mais oui. Qui ont le pouvoir de découpler les facultés physiques d'une personne.
Ok.
L'inventeur de cette fibre extraterrestre a une fille unique. Il s'est fait tuer dans son labo. Et l'assassin s'est enfui et n'a laissé derrière lui qu'une paire de ciseaux géantes. Okay. La fille de l'inventeur donc décide d'enquêter afin de... Non-Sidrou activé. Décide d'enquêter pour savoir qui a commis le crime. Et sa piste l'amène à une école secondaire, techniquement, pour nous autres, la Belge.
Oui.
Où, en fait, l'école n'est pas vraiment dirigée par les profs et le directeur, mais en fait par le comité étudiant, qui sont en possession d'uniformes avec de la fibre extraterrestre qui, à la base, sont réservés aux militaires. Et donc régissent d'une main de fer l'école. Et pas juste l'école, mais aussi la ville aux alentours, qui est classée en fait par ordre social de la classe dans laquelle tu te trouves. Donc les bons élèves peuvent habiter dans les quartiers, dans les jolis quartiers,
oui.
Et les mauvais élèves ou même les élèves juste un peu moyens se trouvent dans un vieux bidonville autour de la ville. Et à cet île tout étant. Elle va aller à cette école-là, essayer de péter des culs pour avoir des
réponses. C'est le terme technique. Hein.
Oui, c'est ça. Le pétage du cul non masculin. Et va se faire péter le cul, en réalité.
Okay.
Va retourner dans les ruines de sa maison et va tomber sur un uniforme fait, attention, à partir de 100% de fibres extraterrestres.
Ouh.
Ce qui est, vraiment incroyable, on n'a jamais vu ça. Et donc ses capacités vont atteindre des sommets et après ça va être du développement de personnages et du gros combat. Alors pourquoi est-ce que c'est sympa alors que comme ça a l'air d'être un espèce de shonen ou bishonen un peu moyen? En fait c'est parce que c'est un truc qui va jouer avec le code des shonen et le code des magical girls en étant terriblement aware de ce que c'est. Donc, c'est-à-dire que toutes les tenues vont être sexy à bloc. Mais quand je dis sexy à bloc, ça veut dire qu'il y a juste les parties extrêmement intimes qui sont cachées.
Ouais, donc tout pour me déplaire.
Mais c'est fait exprès. Et c'est justement... c'est pas en mode les gens aiment s'exhiber. C'est genre... les tenues sont vivantes, en fait. Quelque part, la fibre extraterrestre est vivante.
Ouais.
Et c'est leur forme de pouvoir. C'est ça. Mais c'est terriblement au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, du coup, c'est terriblement bien traité. Et c'est humoristique. Et c'est vraiment drôle. Et loin d'être cringy.
Ok.
Et ça, c'est bon.
Je sais pas, moi j'avais vu quelques extraits sur le net, ça m'avait pas. Mais tu sais bien que moi et l'animation, c'est, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Donc forcément, c'est très compliqué. Mais ça a l'air intéressant de ce que tu m'en dis, enfin, le côté critique du truc, en fait, finalement.
Oui, c'est ça. Et alors, c'est aussi. C'est critique du du système éducationnel japonais.
Tu veux que je te serve ?
Oui, je veux bien, serre-moi. Serre-moi fort.
On sert à boire. Hein.
C'est critique du système éducationnel japonais et un peu comme comme GTO l'a fait dans un style. Bon, je veux dire plus réussi parce que GTO, c'est un truc que je vais que je recommanderais dans l'absolu à 1 milliard de % aussi.
Oui, il y a des lenteurs. Hein.
Oui,
mais grosse lenteurs.
Mais ouais, mais il y a des références à Doraemon et donc du coup c'est incroyable.
Dès le départ, enfin pas le premier épisode, mais genre très rapidement. Oui, bah écoute.
Voilà, ainsi donc.
Moi je suis pas le public cible de base donc.
Bah, on regardera un épisode ou deux ensemble, un de ces quatre. Tu verras, ça passe bien.
Sous une couette tous les deux.
Tout nu.
J'irai pas jusque là, mais bon.
En slip.
Si tu me le proposes. très
et
bien.
Et toi, mon chéri ?
Ben moi je vais vous parler de. Si mon téléphone veut bien répondre, hop.
Téléphone, il répond pas.
Voilà. Et bien moi, depuis maintenant, je veux dire, peut-être 4-5 jours, je me suis abonné au service Marvel Unlimited. Donc qu'est-ce que Marvel Unlimited, vous allez me demander. Donc c'est un service qui est proposé par Marvel pour un abonnement de... Alors il y a plusieurs formules. Vous donne accès en fait au comic book Marvel en numérique. Il y a une application qui sont accessibles à partir de partout du moment que vous avez votre connexion internet.
Mmh. On peut aussi télécharger les albums sur sa devise électronique.
Tout à fait. On peut télécharger jusqu'à 12 single issues pour les moments où on n'aura pas de connexion, pour éviter de se faire avoir en bouffant de la data. Et donc là, je me suis abonné directement pour un an. Sinon, en fait, pour un an, c'est l'équivalent de $69.99, mais bon, en euros, ça fait 66 euros quelque chose. Donc moi, j'ai fait cet abonnement-là. Sinon, vous pouvez payer par mois. Et là, c'est genre $9.99.
Ah ouais.
Moi, je n'allais pas tenter pour un mois. Et renouveler chaque mois, ça allait m'énerver. J'ai pris un an directement. Alors, c'est super bien parce qu'en fait, on a accès à plus de 20 000 comic books, donc 20 000 single issues.
Ça fait une certaine quantité.
Ils en rajoutent régulièrement. Donc, toutes les semaines, il y a à la date des sorties de comic book habituelles, bah, ils en fournissent également pour le service numérique. Et on peut, comme ça, mettre dans une sorte de librairie ce qu'on veut lire. Et après, on peut les lire librement, comme ça. Alors, ce qui est bien également, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le guided view chez Comixology, mais en fait, c'est le fait de pouvoir swiper, et là, tu passes de case en case plutôt que de page en page.
Ouais.
Ce qui est pas mal en plus quand on est sur un appareil qui est un peu plus petit. Si tu n'as pas ta tablette de 10 pouces mais que tu as téléphone de 5. Et moi je lis principalement sur mon téléphone. Bon, des fois quand même, je dois quand même zoomer parce que y a des cases où le texte reste quand même très petit. Mais franchement, c'est. Bon, faut déjà avoir envie de lire du comic book. Parce que sinon, ça n'a forcément aucun intérêt. Mais là, tu as quand même. T'as pas que du récent, t'as du vintage, t'as des trucs des années 60, des trucs des années 80, 70, et 70, excusez-moi. et franchement, il y a du bon stock, il y a des choses qui manquent, mais petit à petit, ils viennent l'approvisionner. C'est et vrai. Aussi, à savoir que les choses qui viennent de sortir en version papier sont pas disponibles avant généralement 6 mois. En fait, ils se gangrènent pas.
Leur sortie
et les gens qui suivent au moins le mois. Ben, reste quand même des clients de la version soit numérique mais qui là reste quand même cher par rapport à la version papier puisque actuellement je crois que c'est plus ou moins le même prix que tu prennes en numérique ou en papier donc c'est un peu une arnaque si tu prends en papier mais voilà et donc c'est vraiment bien c'est vraiment sympa. Maintenant je vais quand même comparer l'application à l'application Comixology parce qu'il y a quand même quelques différences. Il y a un mode nuit, ça c'est cool. Parce que moi je lis souvent, genre avant d'aller pioncer, je lis single issues, et comme ça au moins ça t'agresse pas les yeux. Il y a moyen donc de mettre dans la librairie, mais également après de les classer en fonction des dates de sortie, parce que là je me refais tout depuis Marvel Now, et donc forcément j'ai envie que ce soit par ordre de publication.
Oui.
Et ça, tu peux les classer de cette manière-là. Mais il manque 2-3 choses, comme par exemple le fait de pouvoir noter les épisodes, mettre une note pour voir dire, ah ben ça j'ai bien aimé, pour les cas où on veut les relire, ça c'est pas mal, ou éventuellement de mettre une petite note dessus, comme par exemple, ah ben ça c'est l'épisode pour me rappeler, je vais le marquer. Ça, ouais, c'est l'épisode dans lequel il se passe ça si jamais je montrais à un pote.
Ça, va,
ouais. Ça, il manque ça, mais ça aurait été peut-être intéressant. Chez Comixology, il y a moyen de noter les épisodes. Pas moyen de faire des petites notes, mais au moins de donner une appréciation de l'épisode.
Ouais.
Mais Comixology, c'est autre chose, t'as pas d'abonnement. Enfin, si, t'as un abonnement, mais pas en Europe. Il existe aux États-Unis, mais en Europe, on l'a pas. Donc,
Si je passe par un proxy, ça va pas ?
J'ai pas essayé.
D'accord. On regardera ça.
J'ai pas réfléchi, c'est vrai que j'aurais peut-être dû penser à ça. Je vais regarder, je vais me renseigner.
Okay, okay. Et là, tu connais les tarifs ou...
Je crois que ça va être plus ou moins la même chose. Ça va être genre par mois $9.99 et t'as accès au comic book Image, Dark Horse, IDW, Dynamite, Archie Comics, Onipress, Fantagraphic. Enfin, vraiment un grand panel. Maintenant, peut-être qu'ils mettent pas les plus connus, peut-être que Hit Limit. J'ai vu que ça existait. Par exemple, il donne accès au premier volume de Walking Dead.
Ouais, mais pas au reste.
Mais le reste, tu dois le payer. Ça fait pas partie de l'abonnement.
Ah, ouais. Faudrait voir, parce que moi, je serais du coup intéressé pour des trucs genre The Mask, qui sont excessivement chers à acheter.
Mais ils sont dispo sur Comixology en numérique, mais ça doit être genre 20 balles le volume.
Okay, okay.
Alors pour du numérique, ça peut faire un peu mal. Moi, je passe de plus en plus au numérique.
Ouais.
Au numérique légal,
oui.
J'entends, parce que sinon il y a forcément moyen de tout trouver en...
Oui, plus ou moins, et en plus ou moins bonne qualité. Hein.
Donc,
assez relatif. Hein.
Mais au moins avec le numérique légal, déjà je réfléchis pas au truc, je dois télécharger un fichier CBR que je dois renommer en rare, puis je dois l'extraire, puis après ça je le mets sur mon téléphone portable. Ouais. Là au moins j'ai l'application, je lance l'application, je suis n'importe où, j'ai ma connexion, je fais, je veux lire, je sais pas moi... je veux lire les New X-Men de Grant Morrison.
Ouais.
Je tape New X-Men, hop, je cherche le premier numéro, je me lance. Et en plus, j'ai pas besoin de zoomer à chaque fois, c'est en guided view.
Tout à fait, ouais.
C'est vraiment pas mal. Je vous conseille pour ceux qui aiment les comic books, éventuellement ceux qui se découvrent une passion pour les comic books maintenant et qui ont envie de lire plein de trucs, genre chez Marvel. Je vous conseille le Marvel Unlimited. En plus, franchement, par mois, ça coûte pas très cher si vous payez toute l'année. Moi, en gros, ça me coûte un peu plus de 5 euros par mois pour lire autant que je veux. Donc, il n'y a aucune limite. Voilà. Donc, je vous conseille ça. Je pense que c'est, pour les passionnés comme moi, c'est le bon plan. C'est
qu'un avantage.
Oui, c'est vraiment qu'un avantage. Je vous propose, avant de partir en critique, de s'écouter un petit morceau.
Je t'en prie.
Mais pourquoi pas ?
Alors, je vous propose d'écouter le morceau Westminster Bridge, donc, qui est de la toute première mélodie qu'on entend de retour de la série.
Ouh.
Dans l'épisode de Rose.
Allons-y. Allez,
à tout de suite. We'll be right back. voilà, on est de retour. Hop. Désolé, j'essaie de régler tout avec la table de mixage, mais je n'ai que deux mains, donc c'est pas évident. Donc ah, on est de retour.
T'en avais trois.
Non, c'est pas une main ça.
Ah.
On est de retour pour parler de l'épisode Father's Day, donc huitième épisode de la première saison de Doctor Who, enfin la première saison du retour de Doctor Who en 2005. Qui veut s'occuper du petit résumé?
Pas moi.
Celui qui a la plus belle voix.
Ah bah ce sera moi alors. Ah, ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que le docteur demande à Rose qu'elle... Non, en fait l'épisode commence, c'est pas vraiment ça. C'est que Rose parle de son père,
oui.
De son père qu'elle n'a jamais connu parce qu'il est mort alors qu'elle était toute petite. Elle lui raconte qu'il est mort seul après s'être fait...
écraser.
Voilà, rentrer dedans en bagnole.
Avec un délit de fuite pour celui qui l'a écrasé.
Oui. Et donc, elle dit qu'elle aurait espéré qu'au moins qu'il y ait eu quelqu'un qui soit là pour le soutenir dans ses derniers moments.
Et lui tenir la main.
Et alors, elle demande au docteur si c'est possible d'y aller. Et le docteur lui dit...
Un peu réticent.
Bah, d'abord, il lui dit « Your wish is... » Non. « Your wish is my command ». Donc, tes souhaits sont
mes ordres.
Il dit « Tu dois juste faire attention à ce que tu souhaites, en fait. » Et donc, elle dit bah, « On y va ». Ils y vont. Elle supporte pas le coup de le voir se faire écraser, donc elle se casse. Ils remontent à nouveau dans le temps en disant « Faut faire bien attention à pas se croiser, nanana ». Et là, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle va le sauver.
Elle va le sauver. Et le docteur, il n'est pas content.
Mais non. Parce que du coup, c'est un paradoxe.
Du coup, c'est un paradoxe parce que ça, son décès est un point fixe. Oui, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est vrai que...
Donc, évidemment, dans Doctor Who, en fait, il y a des points... Parce que le docteur sauve tous les jours des tas de personnes et en condamne aussi, par la même occasion.
Enfin, c'est pas tellement qu'il en condamne, c'est qu'il y en a qui ne va pas sauver.
Ouais. Et voilà, Rose a un peu en mode, bah, si tu peux sauver ces gens... Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas sauver mon père? Et il lui répond, ton père fait... la mort de ton père est l'un des nombreux points fixes dans le temps.
Ça va être vachement développé dans le reste de la série.
Donc voilà, des points fixes tels que les désaccords signés, genre la déclaration d'indépendance des États-Unis, tout ça, c'est des points fixes.
Pompéi
est un point fixe.
Le
Vésuve, l'éruption du Vésuve sur Pompéi est un point fixe. Et dans le cas présent, Rose, qui à mon avis, du coup, enfin, qui à mon avis, c'est explicité après, mais qui a une place importante dans l'univers, la mort de son père, c'est quelque chose qui va décider énormément de choses pour elle.
Ouais.
Et donc...
Mais qui va faire celle qu'elle est.
Oui, tout à fait.
Au moment où on en est dans la série.
C'est ça.
C'est-à-dire une fille qui a grandi avec une mère célibataire, qui a dû se faire être un petit peu s'endurcir, puisque là, on voit, elle a 19 ans, je crois,
ouais.
Et elle travaille. Enfin voilà, le fait de l'absence de son père a défini qui elle était.
Tout à fait, oui. Et donc, ce qui fait que c'est un point fixe qui ne peut être changé. La mort de son père est donc inévitable.
Et donc, oui, le paradoxe est ici, incarné par des sortes de vampires.
C'est ça, une espèce de gros
chauve-souris.
C'est ça, une espèce de...
Chauve-souris reptile.
De ptérodactyle.
Ah ok, je pensais que c'était de petit quelque chose, genre de petit dragon.
Non, c'était pas une crise de belgicisme.
Ah franchement, moi je l'avais ressenti comme ça.
Non, pas du tout.
D'apté.
Ce sont des ptérodactyles, hein, donc c'est-à-dire que ce sont des drodactyles, mais pas très grands. Ouais, ce sont des ptérodactyles.
Ça fait penser à un truc, si bien que j'adore l'émission Les Mystérieux Étonnants, podcast sur la culture populaire qui vient du Canada. Et à un moment, il proposait, Simon Chénier proposait de nommer l'espace entre, tu vois, plus ou moins entre les couilles. Et il disait, je propose de l'appeler le de là. Et l'autre il fait, pourquoi? Il fait, parce que souvent ça sent de là. Et j'ai trouvé ça génial. Et ton de petit rodactyle, ça m'a un peu fait penser à ça.
Voilà.
Tout ça pour ça. Bon, ouais, on se retrouve dans deux semaines. Non. Et donc ils vont prendre. Donc, oui, le jour de la mort du père de Rose. C'est le jour du mariage d'un couple d'amis, des parents de Rose.
C'est ça, tout à fait.
Et donc, là, vu qu'il y a tout ce bordel, ils vont se réfugier dans l'église parce que les...
C'est un bâtiment ancien et qui est plus résistant à ce ptérodactyle.
Il est plus ancré, il est plus ancré dans le temps vu qu'il a passé des centaines d'années, vu que c'est une église. Donc, il est plus ancré dans le temps, donc possiblement... plus résistant à ces ptérodactyles.
Tout à fait.
Y a aussi un autre souci, c'est le fait que le TARDIS, lorsque le docteur y va...
est redevenu une cabine ordinaire.
Il n'y a plus rien dedans, c'est redevenu une cabine ordinaire. Et ça, c'est...
Et il y retourne parce qu'il voulait abandonner Rose.
Alors, moi, je ne pense pas qu'il l'aurait abandonné. Je pense que c'est genre, ok, tu fais comme ça, je vais dans le TARDIS, je vais bouder.
C'est ça, ouais.
Et je vais te laisser faire ta vie, après on va trouver une solution, mais là tu m'as saoulé. Moi je l'ai plus vu comme ça.
Oui.
Je pense pas qu'il le laisserait là, parce que alors, ça crée un paradoxe. Vous savez, il fait la gueule parce qu'un paradoxe est créé, mais le laisser là crée un paradoxe.
Encore plus grand.
Encore plus grand, je ne sais pas, mais en tout cas, un paradoxe sûr, quoi.
Et ainsi donc, pour mettre fin à ce paradoxe, le père de Rose va devoir se sacrifier, aller se faire percuter par la voiture qui repasse en boucle tout près de lui, et finir par mourir. Cela mettant fin au paradoxe. Et par la même occasion, Rose va pouvoir, lorsqu'il sera mourant, lui tenir la main. Et ainsi, plus tard, sa maman lui racontera qu'il y avait une jeune fille qui lui tenait la main et qui lui parlait alors qu'il était en train de mourir. Et que donc, tout est bien qui finit bien parce que, un, elle a rompu ce qu'elle voulait faire à la base et elle a réparé ses conneries. Et je viens de finir ton boulot.
Mon résumé, oui.
L'un commence, l'autre finit.
Mais il y a plein de choses intéressantes dans cet épisode. Par exemple, on voit Mickey.
Oui.
On voit Mickey gamin. On voit également l'importance de la clé du TARDIS, qui a une importance particulière. Le fait que au téléphone, les gens captent le premier appel téléphonique entre Graham Bell et je ne sais plus qui, et Watson, parce qu'il y a Watson dedans, mais enfin voilà. Il y a tout ça qui est vachement intéressant, je trouve. L'ambiance aussi fait très...
c'est très oppressant.
Ouais, et je trouve... Enfin, tu vois, quand je parle de la trilogie Cornetto, je dis, mon préféré, c'est Hot Fuzz.
Ouais.
Et je dis, j'aime ça parce que c'est en gros, c'est un épisode de la série Barnaby.
Qui aurait déconné.
Qui aurait un moment totalement switché sur autre chose. Et dans lequel il y aurait un mélange... en fait de Barnaby et à la fois de Body Snatcher, Body Snatcher, Invasion of the Body Snatcher, et ça me plaît assez. Et si vraiment t'as l'impression de genre un village à la Barnaby ou à la Maigret, voilà, dans lequel bim hop un truc d'horreur, donc un peu comme dans Hot Fuzz, et je trouve que ça fonctionne très bien parce que ça tord un peu la réalité un peu morose.
Ouais.
Et ça apporte quelque chose de une véritable menace, alors que la menace principale dans ce genre de village, c'est peut-être l'ennui, quoi.
C'est ça.
Ou le fait de mourir vieux.
Ou les petits vieux terrifiants, comme dans l'épisode du Maître des Rêves, qui sera bien plus tard.
Ah oui, très très, très bon épisode. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode?
Alors, moi j'apprécie.
Oui.
Très clairement. L'ambiance à Barnaby me fait bien délirer au début. C'est très beau, hein, évidemment. C'est un peu l'épisode de la chialade. Parce qu'évidemment,
il est très bien écrit.
Le premier qui te prend par les tripes.
Ouais, on t'apporte le thème du papa.
Ouais, pour toi, c'est le premier qui.
Qui prend vraiment aux tripes, ouais.
Ouais, d'accord.
Ça joue avec mes sentiments comme sur une contrebasse.
Je m'y attendais pas. Ah, monsieur est mélomane. Mais ouais, en fait. C'était très risqué d'aborder comme ça un personnage aussi important pour la vie de Rose.
Mais c'est pas la dernière fois qu'on va l'aborder, d'ailleurs.
Non, tout à fait. Enfin, on va rencontrer ce personnage plus tard. En plus.
Celui avec les deux univers et les Superman.
Ouais. Ah. The Age of Steel.
Voilà, qui n'est pas l'âge de Superman.
Non, pas du tout. Donc toi, tu as beaucoup aimé. C'est le premier vraiment qui t'a touché.
Oui. Car.
Oui.
L'autobus. Non. Et le père écoute du Rick Astley dans sa voiture.
Putain,
il faut le dire, il faut le souligner.
Mais on est en quelle année? Parce qu'on n'a pas situé ça, mais moi je pense qu'on est en 87 plus ou moins. C'est possible?
ce serait dans... À 19 ans, on reprend en 2005.
Oui. Et là, le, ouais, là, ouais, là ce un serait peu moins d'un an.
86-87, ce serait la bonne époque, oui. Ouais, elle est déjà un bébé, un vrai bébé, donc du coup, oui, 87, oui.
Ouais, 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 c'est plus ou moins ça, en effet. Je faisais mes calculs en tête, c'est ça que je disais rien. Donc, beaucoup aimé, premier truc que t'as vraiment fait, qui t'a touché au cœur.
Oui.
Toi, tonton.
Oui, mais pas ce que j'étais en train de dire avant. Oui, c'est.
Eh ben, tu le répètes, bordel. Cache pas les couilles.
Eh ben, écoute-moi bien, jeune catin. oui. Oui, 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 c'est le thème du père qui abordait. Voilà. Oui. Ouais, c'est chialant. Le fait de voir son père mourir devant soi, alors qu'on n'a pas eu l'occasion de le connaître et qu'on l'a connu qu'un jour, en étant adulte, c'est terrible, c'est terrible.
Puis le fait de jouer sur elle, penser que c'est un homme exceptionnel.
C'est ça, c'est ça. Et oui,
c'est juste un vendeur
fait...
de porte-à-porte.
Oui, et le fait que...
Bah, c'est juste, on ne fait pas d'hiérarchie des...
Non, mais
s'il y a un vendeur de porte-à-porte qui nous écoute ici, monsieur, t'es une merde. Maintenant, tu rentres chez toi, PD. Voilà.
Non, mais. Je prie d'excuser mes amis.
ah bon, depuis quand?
Ils sont alcoolisés.
Ouais. Oh.
Non, mais. Il n'y a pas de hiérarchisation des
métiers. Non,
des métiers. Un médecin n'est pas une meilleure personne qu'une technicienne de surface. Loin de là. Pour avoir côtoyé des médecins
et des techniciens de surface.
Et des techniciens de surface, tout à fait. Ça ne veut rien dire. Et ça n'a rien à voir, mais je regardais il n'y a pas longtemps. Enfin, je regardais. J'ai entendu l'extrait d'un téléfilm où le mec disait qu'il était infirmier et un pote lui disait « Mais tu ne peux pas dire ça, tu ne vas jamais choper des meufs avec ça. » Et il lui fait mentir en disant qu'il était médecin. Genre, c'est une honte d'être infirmier.
Mais oui, évidemment.
Pas du tout.
Alors que c'est loin d'être prenez, super classe.
Vous prenez soin des gens, vous les aidez.
La preuvrerie,
hein.
La preuvrerie.
La preuvrerie.
Mais tu vois, je trouvais ça assez fou.
Ouais.
Enfin bon, peu importe.
Donc, oui, la mère de Rose avait choisi de parler de son père comme d'un homme exceptionnel, d'un espèce de génie.
En fait, tu sais pas par mensonge.
Non, c'est ce qu'elle ressentait et c'est techniquement vrai dans son cœur en tout cas.
Mais c'est aussi pour sa fille qu'elle le fait.
C'est ça. Et au final, voilà, c'est un homme profondément humain qui a ses failles, mais sa mère l'aimait réellement et il avait en retour un réel amour pour sa mère. Et ce qui fait qu'elle ne mentait pas vraiment. Quand elle
mais c'était loin d'être un homme parfait. Et moi, je trouve par exemple quand il se trompe sur le nom de Jackie à son mariage, sur son deuxième prénom et tout ça. Moi je trouve que ça, là où elle a l'air très très énervée par ça, je trouve que c'est un certain charme en fait. Tu vois, le fait du mec qui est... les défauts font aussi les personnes et je trouve que là, moi par exemple, je dis pas que ça fait mon charme, mais moi les dates, moi
les fruits,
c'est une oui les fruits, oui il est étrange.
Les raisins, les filles,
les dates d'anniversaire et tout ça. Moi, je peux me lever le jour de mon anniversaire savoir que c'est mon anniv. Alors, les gens font la gueule quand ils disent « Ah, je ne vais pas rappeler de mon anniv » ou alors « Ah, c'est notre premier mois d'anniversaire.
» Moi, j'étais fâché. Hein.
Ouais, c'est vrai que... mais je m'en rappelle. C'est pour ça que je règle mes comptes maintenant.
Ah, oui.
C'est mon choix ici. Ça fait la deuxième fois que je dis que c'est notre émission, c'est mon choix. Une fois, je vous ai demandé si je ressemblais à Elvin Thomas. Vous m'avez répondu oui.
Ouais,
la coupe de cheveux. Enfin,
la spontanéité.
Et le fait d'être entouré de gens très étranges aussi.
Coco.
Moi, c'est un épisode que je trouve très très bon. Sur plein d'aspects. Moi, je dirais même l'un des seuls.
Moi, je lis.
Tu m'as coupé dans mon élan.
Ouais. Et dans ton cerf aussi.
Oh.
Alors, vous pourrez vous battre pour lâcher des vannes quand elles seront bonnes. Là, elles sont un chien.
On n'est pas prêt. On n'est pas prêt.
Pour moi, le seul défaut, c'est d'avoir fait de ces monstres des monstres en 3D.
Oui, c'est une idée.
Qui casse un petit peu l'immersion. Alors
on aurait pu en faire des espèces de Slenderman comme le Silence.
Oui,
ça aurait été bien plus.
Ouais, ou des mecs en capuchonné.
En G-Man, ça aurait été assez cool.
Ouais, avec juste le visage effacé, comme le Slenderman, tu disais. Mais même. C'était pas obligé que ce soit des trucs volants.
Ouais.
Donc, il n'était pas obligé de tomber sur le truc en CGI dégueulasse. Maintenant, je suis pas non plus, comment dire, je suis pas non plus contre cette idée là. Je trouve qu'en fait la vouloir en faire des dragons vampires, c'est ça n'apporte rien.
Non.
Donc des monstres comment dire plus terriens, moins aériens auraient été tout aussi efficaces. C'est pas eux qui apportent le l'intérêt de l'épisode.
Tout à fait.
Et faire de la très mauvaise CGI, ben ça nous sort un petit peu. Alors que le kitsch fait partie de Doctor Who, on l'a dit plusieurs fois, on le redira autant de fois qu'il le faut. Mais parfois,
ça peut lui nuire. Hein. Ça, ce n'est pas
mais là où, justement, t'es dans un truc très terre-à-terre, justement, ça, pour moi, ça nuit au truc.
Ouais.
Et aussi le fait, et on en a souvent parlé, je ne sais pas si avec toi, j'en ai déjà parlé, mais le fait que les paradoxes sont incarné par ces choses-là, alors que plus tard on va vivre des paradoxes
et qu'on les verra plus jamais. Ouais, mais...
Et c'est pas exploité, alors que justement il y avait cette crainte du paradoxe parce que ce truc-là venait manger d'autres trucs pour rééquilibrer en fait l'univers. Ouais. Et du coup là c'est pas du tout le cas, donc je trouvais ça un peu dommage, mais c'est pas de la faute de l'épisode parce que l'épisode en lui-même il se tient, il est bien.
Ouais.
C'est la suite en fait, c'est le reste de la série qui prend pas en compte ce qui a été mis en place par cet épisode-là et du coup c'est dommage.
D'un autre côté, ça aurait été très compliqué quand tu as des épisodes qui sont dédiés au paradoxe, comme avec le retour du maître, etc.
Oui, d'accord, oui.
Ça aurait été excessivement compliqué.
Mais surtout que ça aurait été peut-être trop systématique, en fait. Il y a tellement de paradoxes dans Doctor Who. Des fois, des paradoxes qui sont adressés. Parfois, des paradoxes qui sont totalement ignorés.
Ouais.
Et en fait, si à chaque fois qu'il y a un paradoxe qui est créé, il doit y avoir ces trucs-là, du coup ça aurait été presque tout le temps, presque tous les épisodes, parce que à partir du moment où il y a voyage dans le temps, il y a paradoxe normalement.
Fait, oui.
Donc c'est vrai que ça pose un petit peu souci.
Mais est-ce que vous pensez qu'elles sont puissantes, ces créatures? Parce que, il faut quand même le dire, elles absorbent l'équivalent de trois énergies de régénération du docteur. Donc le docteur se fait absorber, mais quand il meurt, il se régénère. Mais donc là, est-ce qu'elles ont absorbé l'énergie de régénération x3 ou je m'explique très très mal?
Je vois pas du coup de quoi tu parles.
Dans cet épisode, le docteur se fait absorber par une pterodactyle.
Ah, oui.
Mais est-ce qu'elles absorbent l'énergie qu'il émane ou c'est juste il est effacé pop, comme ça?
Non, je pense qu'ils absorbent l'énergie, mais d'où tu sors le chiffre de 3 générations?
Ben... Eccleston, c'est le 9e.
Mm-hmm.
10, 11, 12.
Mais t'es encore avec le.
Mais c'est pas ça qui se passe. Enfin, je comprends pas.
Ouais, il est pas
trop. Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il a absorbé? Est-ce qu'il a envoyé autre part? Qu'est-ce qui se passe?
Si jamais il.
Oui.
Parce que ça arrive pas.
Non, là, c'est juste une hypothèse.
Ah, d'accord. Je pensais que tu disais que c'est ça qui arrive dans l'épisode. Toujours à me dire, mais de quoi il me parle?
Là, il se fait encercler par les ailes et il disparaît.
Bah, si ça rééquilibre... Moi, je pense qu'ils vont bouffer jusqu'au moment où l'équilibre sera fait. Et en fait, ils vont tout bouffer si jamais la chose à la base du paradoxe n'est pas rétablie. Donc pour moi, même s'il vient, il dit bon, « donne beaucoup d'énergie », bon, à la limite, c'est Doctor Who, donc quand tu regardes Rings of Akaten, à la mémoire d'un truc peut suffire à équilibrer plein d'autres mémoires. Donc, il jouerait sur le fait que je donne ma régénération maintenant et ça suffit. Pour moi, dans l'épisode, c'est plus défini comme on a créé un paradoxe, ça crée une boucle, les vampires du paradoxe viennent tout bouffer et ils boufferont tout parce qu'il y a un point
fixe
qui n'a pas été respecté. Donc pour moi, c'est jusqu'à l'infini. Mais bon, c'est Doctor Who, du coup, il l'aurait fait de manière... Mais voilà, mais... je pense pas que ça sera allé jusque-là, quoi.
Non, je pense pas qu'ils aient même jamais eu l'idée de jouer avec ça. Et je pense, ouais, en effet, que c'est plus genre, il t'attrape, tu disparais, il t'attrape pas, tant mieux.
Et je pense que c'est pour aussi arrêter... Enfin, l'épisode est super bien, il apporte plein de trucs pour le reste de la série, comme... comment dire, comment était le père de Rose? Oui, ouais. Ça nous permet un petit peu plus d'humaniser Jackie. Ouais. On comprend mieux pourquoi elle est difficile maintenant. Ouais. Pourquoi elle est telle qu'elle est, parce qu'elle a vécu des choses qui n'étaient pas cool non plus. Mais en plus, d'un point de vue purement technique, ça permet d'éviter, ou en tout cas de donner une justification au docteur lorsqu'il dit « Non, ce truc-là, on ne le règle pas.
Ouais. »
C'est parce que sinon, il y a ce truc-là. Je pense que c'était aussi fait pour ça.
C'est pas faux. Ouais.
De se dire « Ah ben non, on ne va pas empêcher le Titanic parce que c'est un point fixe. Si on le fait, de toute façon, il va y avoir plus de morts
c'est ça.
Que si on... » Par exemple, la guerre, l'une des guerres mondiales.
Ouais, ouais, ouais.
Il pourrait l'empêcher de manière très facile, mais non, c'est parce vrai. Que c'est un point fixe. Donc ça justifie pour moi tout le reste, en fait. Donc voilà. Mais moi, j'ai trouvé que c'est un très bon épisode.
Oui,
aussi. On est tous d'accord là-dessus.
Vous avez d'autres choses à ajouter ?
Pas de masse, moi.
Monsieur Chiffre, est-ce que tu as regardé les chiffres ?
Ah, bah bien sûr.
Ah, bah passe à ça, parce qu'après, il faudra qu'on le classe.
Oh, déjà
dans notre liste d'épisodes.
Bon, on a
du tout, finir. On est pressé.
Bon, on est pressé. Bon. Bah, c'est-à-dire que si on n'a rien à dire.
Juste rajouter un tout petit truc alors.
Oh, bah, compris, oui.
Bah, justement, je vous demandais si vous vouliez rajouter des choses.
Ah, bah oui, alors.
Pas sur le point que je venais d'apporter.
Je ne te suivais plus, j'étais parti.
Si, non, c'est genre, moi j'ai terminé mon point. Abordez le reste si vous voulez aborder.
Tant que c'est pas ton coup de point.
Je t'en mettre une dans la gueule.
Oh hein. Oui. Dernier petit détail, la plaque. Mm-hmm. La plaque de la voiture qui renverse le père de Rose.
Ouais.
C'est. Neh. N-E-H.
Okay.
Et pour moi, ça résume assez bien l'épisode.
Ouais, t'as pas aimé.
Mais c'est ce que ça veut dire l'interjection. C'est neh. C'est pas pire. C'est pas le meilleur. C'est... Ouais, voilà.
T'as pas été touché. Pourtant, t'as dit tantôt
oui,
que c'était...
Touché, oui, mais je veux dire l'action du docteur, quelque chose qui... Non, bah, qui rappelle fort le docteur.
Pour moi, c'est pas spécialement ça, Doctor Who. Ça peut être tout n'importe quoi, Doctor Who. Du moment que c'est bien. Et là, c'est bien en étant touchant, par le biais du fait que c'est touchant. Et c'est ça qui est cool dedans.
Moi, j'aime pas quand c'est touchant parce que ça me fait pleurer. Pleurer, j'aime pas.
Ouais. Justement, pas moi, je regardais...
Faut que t'arrêtes d'être un homme refoulé, mec.
Non.
Mais tu vas te calmer, toi, avec ton homophobie. Parce que moi, je te le dis, je dirais de l'émission Fissa. Hein.
Ça va. Fista.
Putain, je crois que j'irai rien que pour ça.
C'est pas une sorte de voiture, genre chez la Fiat Fista.
Mets déjà ton micro correctement, parce qu'en plus tu l'as mis.
Inutile de me l'enfoncer dans la gueule, mec.
Mais non, mais on t'entendait presque pas.
Ah ouais, voilà, comme ça tu m'entendras mieux, chérie.
Ah, le mec insupportable. Pff, et encore, vous avez pas à vous le coltiner. Putain.
Ah, je suis obligé. Parfois, même que je me sens obligé de l'inviter à aller passer des journées avec moi et aller au cinéma, c'est vraiment affreux.
Et payer pour toi.
Ah oui, mais ça, oui, mais je me fais entretenir. Tanguy, j'étais au ciné avec lui.
C'est deux fois que je paye pour toi.
Ouais, Tanguy, hier, on était au ciné, et puis après, il m'a proposé d'aller boire un verre. Je lui ai dit oui, seulement c'est toi qui me l'offre. Il m'a fait, oh, allez, ok. Et,
voilà. En plus, il est friqué, Tanguy.
Mais il est friqué. Le chihuahua mani.
Ouais. Enfin, moi, ça va, je travaille. Donc,
bon, si t'avais du chihuahua mani, je te pomperais encore plus.
C'est vrai
ton
qu'il
argent,
laisse tricler. Alors, je vous propose, si vous n'avez rien à ajouter. Tu avais les chiffres, il me semble.
Bien sûr, j'ai toujours les chiffres.
On t'écoute.
Dis-donc, j'ai beaucoup parlé cette fois-ci.
Eh ben, c'est le 8e épisode. Et c'est le 9e docteur.
Scénarisé par Paul Cornell.
Qui a fait des comic books de Wolverine et aussi des comic books de Taureau.
C'est très bon. Les comics.
De Paul Cornell, ça se lit.
Ça va alors.
C'est pas des chefs-d'œuvre non plus, mais ça se lit.
C'est incroyable.
Réalisé par Joe Erney.
Joe Dante.
Erney.
T'imagines ?
C'est incroyable.
La première diffusion anglaise, c'était le 14 mai 2005. Uh-huh. Ça remonte à loin, c'est fantastique. Et la première diffusion française, le 26 novembre 2005.
Okay.
Avec une audience de 8,6 millions.
Déjà à l'époque, genre t'attendais 6 mois, t'avais la traduction.
C'est bien, c'est bien.
Ouais, franchement, je pensais qu'ils n'étaient pas au taquet dès le départ comme ça.
Maintenant, il faut attendre quoi ? Un mois ? À tout casser ?
Plus. Hein. Enfin, je prends la comparaison avec Sherlock. Les derniers épisodes, on va seulement les avoir le mois prochain, je crois, ou fin de ce mois-ci.
Et ça fait combien de temps qu'ils sont sortis ?
Ils sont sortis en janvier.
Ah !
Donc 3 mois, quoi.
C'est incroyable.
Un tout petit peu plus vite.
Bien, très bien. Maintenant, on doit réussir à trouver
sa place
dans notre top des épisodes. Alors, de Doctor Who.
Sors-nous notre top.
Alors, je sors le top.
Parce qu'il y a le petit papy qui va bien.
Voilà. Je vous récapitule un petit peu le top.
Vas-y,
bah oui, pourquoi pas.
Alors, on a en première place l'épisode d'Alec. Mm-hmm. Ensuite, le double épisode sur les sit-in. Mm-hmm. Ensuite, l'épisode Rose.
Sophie.
Puis l'épisode... The Long Game.
Okay.
Ensuite, The End of the World.
Mm-hmm.
Puis après ça, The Unquiet Dead.
Ok. Alors, moi je le placerai quand même en dessous de Dalek.
Tu trouves que Dalek est meilleur que Fallerzee?
Oui.
Ok.
Aussi.
Ah, vous aussi. Moi j'hésite, pour moi ils sont plus ou moins kiff-kiff.
C'est juste que... Ouais. Pour Dalek, hormis 2-3 personnages de ta claque ou qui servaient un peu à rien, il n'y avait pas de...
De quoi, de gros défauts?
Ouais.
Quand même, parce que là, dans, à part la 3D...
Ouais, qui est un peu moche, et 2-3 personnages qui sont un peu... genre, quand ils sont coincés dans l'église, il y a 2-3 personnages bien chiants, quand même.
Du genre le mec qui va se marier, tout ça?
Ouais.
Un peu.
Ouais. Ouais, surtout le père du mec qui va se marier, moi, je trouve qu'il est insupportable.
Ouais, ouais. Bon, voilà. Mais oui, bon, après, ça c'est un peu subjectif. J'ai plus apprécié, d'une manière générale, Dalek. Et ouais.
Bah pour moi, ça me va. On le note donc en deuxième ?
Alors, faisons ça.
Allez.
Faisons ça.
Hop, je prends mon petit ticket de caisse parce qu'on n'a pas de moyens.
C'est ça.
On écrit au dos des tickets.
Fader's Day. Voilà. Et donc, je vous récapitule donc, cette nouvelle liste. Premier épisode.
Dalek.
Je fais du moins bon ou...
Ouais, du pire au meilleur. Okay.
Donc, le pire pour nous, pour le moment, de la série, c'est The Unquiet Dead. Ensuite, un petit peu mieux, on a The End of the World.
Mm-hmm.
Ensuite, un peu mieux, The Long Game. Ensuite, Rose. Puis, le double épisode sur les sit-in. Mm-hmm. Puis, Father's Day. Et enfin, Dalek.
Tout à fait.
Donc, Dalek est le meilleur. Le podium, c'est Dalek en 1. Father's Day en 2 et puis double épisode sur Resident en 3.
Et ils sont tous assez serrés hein, au niveau du classement. Il y a ouais. pas.
Maintenant, moi, je vous avoue que personnellement, est-ce que personnellement vous auriez fait un classement autre
Oui, légèrement différent. Je crois que j'aurais mis l'épisode Resident plus bas.
Ouais. Étoile.
Très, 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 très serré. Bah, celui-ci me semble assez ouais. correct.
Moi, j'aurais probablement mis The End of the World un petit peu au-dessus.
Okay.
Au-dessus de Long Game à coup sûr, peut-être au-dessus de Rose.
Ouais.
Donc sinon le reste pour le moment ça me va, sachant qu'on a de gros épisodes qui vont bientôt arriver. Hein.
Oui,
clairement. Très pressé.
Qui eux risquent un petit peu de chambouler déjà le podium.
Ils vont baiser la game.
Voilà. Maintenant bon, on verra à ce moment-là. On va pas non plus griller toutes nos cartouches. On essaye cette fois-ci d'enregistrer...
Dans 2 semaines.
Sachant que dans 2 semaines, normalement, on enregistre un antidote avant lui.
Ah oui, c'est juste... Bah, oui, alors dans 3 semaines, parce que dans... moi, la semaine prochaine, je ne serai pas là.
Ouais, donc dans plus ou moins 3 semaines, ça va tout le monde ?
3-4 semaines, oui. On va voir.
3 semaines.
Eh.
3 semaines.
Mais très bien, alors on se donne rendez-vous dans 3 semaines. Vous avez un dernier mot à rajouter ?
Alicant.
Chocolatine.
Et moi, je vais dire prépondérant. Allez, je vous laisse un petit morceau musical et à dans 3 semaines.
Des gros bisous.
Bisous.
Bisous.